Grenville PM. La voix est libre.
Je, François Legault, déclare sous serment que je remplirai les devoirs de ma charge de premier ministre avec honnêteté et justice. Il y a du travail à faire. Retrouve toute cette fierté qu'avait et qu'il nous a donnée M. Lévesque.
C'était François Legault, bien entendu. Et la raison pour laquelle, mon cher Luc, tu veux nous en parler, c'est parce que...
Je le considère le grand gagnant de l'année. Écoute,
c'est comme le bon coup de l'année, si on pourrait
c'est
dire.
C'est le bon coup de l'année, si on peut l'appeler ainsi. Qu'est-ce que tu veux? Son parti avait 6 ans. Son parti n'a pas de base militante enracinée dans les régions. Mm-hmm. Son parti arrivait, enfin, pendant un temps, avait de la difficulté à recruter des candidats vedettes. Puis tout à coup, on dirait que le jello a pris. Puis pendant toute l'année 2018... Il a été en haut dans les sondages, il a été en première position, puis graduellement, il a ajouté des membres à son équipe, puis c'est devenu de plus en plus crédible. Puis il a fait une campagne électorale avec des hauts et des bas, des montagnes russes. À un moment donné, ça baissait.
Il a failli l'échapper. Et il s'est réchappé, c'est le cas de le dire, en gagnant l'ultime débat. Oui. Comme il l'avait fait d'ailleurs à la campagne de 2014.
Oui, où il avait sauvé les meubles cette fois-là.
Voilà.
Cette fois-ci, ben, il a formé le gouvernement. Il n'a pas eu 40 % du vote, mais il faut bien reconnaître que notre système parlementaire et notre système électif est comme il est. Il a 75 députés depuis l'élection partielle dans Robertval. Donc, il y a les coups des franges, il y a les
60 % des comtés.
Voilà, alors il peut agir comme bon lui semble, en ce sens que l'opposition ne peut pas l'empêcher d'aller dans un sens ou dans l'autre. Il a formé, ma foi, un gouvernement... il est encore un peu tôt pour se prononcer, mais on voit déjà émerger quelques vedettes potentielles. Je pense, par exemple, à Geneviève Guilbeault, qui m'impressionne franchement beaucoup.
Beaucoup d'aplomb.
Beaucoup d'aplomb et une certaine sagesse qui se dégage d'elle, une communicatrice assez naturelle.
Sonia Lebel, moi, je la trouve pas mal bonne.
Jusqu'à maintenant, Sonia Lebel fait un assez bon travail. Je trouve Fitzgibbon assez étonnant.
Oui.
C'est un homme que je ne connaissais pas.
Comme Girard aux finances.
Girard aux finances, qui, lorsqu'il avait annoncé sa candidature, il était tellement mauvais que je ne sais pas si tu t'en souviens, on était à l'époque à TVA ensemble et on s'était dit, mais voyons donc, ça n'a pas de bon sens, il n'est pas capable de parler, ce gars-là.
L'enfer.
Mais maintenant, il est très bien, est vraiment très bien.
Il a trouvé ses marques.
Ah oui, alors il y a des... Puis Roberge, le gars à l'éducation, qui est une des priorités du gouvernement, alors ça aussi, c'est un... ce sont des ministres, puis Bonnardel qui reste un parlementaire et un naturel politicien qui est au transport et qui a bien du pain sur la planche. Alors, soit-on l'heure d'une année 2019 qui va être à l'avantage du Québec.
Oui, puis des Québécois.
Absolument. Il est le gouvernement de nous tous.
Ben oui, puis peu importe pour qui on a voté, Luc, peu importe la couleur, on souhaite qu'ils réussissent.
Bien sûr, parce que quand ils réussissent, sa réussite, c'est la nôtre, n'est-ce pas?
Ben oui, exactement.
C'est comme ça que ça se mesure.
Exactement.
Mais il va avoir des grands défis devant lui. Par exemple, un ralentissement que certains voient venir pour 2019 et une récession possible vers 2020. Ça, c'est toujours beaucoup, beaucoup moins drôle. Parce que là, ils ont bien commencé leur mandat, même lors de la première rencontre officielle entre Legault et Couillard pour la passation des pouvoirs. Devant les caméras, Legault avait félicité Couillard pour lui avoir laissé une situation financière aussi
avantageuse.
Aussi avantageuse. Alors, ça lui a permis d'immédiatement annoncer des baisses d'impôts, de taxes sous diverses formes. Ça lui a permis de s'avancer sur des projets d'infrastructures comme celui de Québec. Alors, c'est le grand gagnant de l'année. On ne peut pas le nier. J'aurais pu dire Doug Ford. Je trouve ça moins drôle comme élection, mais Doug Ford, quand même, est un gagnant important dans la Fédération. Il va être probablement le trouble fait qui va empoisonner la vie de Trudeau pendant cette année électorale qui s'enclenche à Ottawa.
Oui, absolument.
Mais à part ça, Legault, je ne vois pas d'autres personnes. Tu sais, c'est un renversement de situation. Ça faisait 50 ans que le Québec avait été gouverné soit par le Parti québécois, soit par le Parti libéral.
C'est seulement la troisième fois dans l'histoire du Québec qu'un nouveau parti prend le pouvoir à Québec. L'Union nationale en 1936,
le Parti québécois
en 1976, puis la CAQ en 2018. C'est vrai que c'est un moment historique.
C'est un moment historique, puis c'est aussi une espèce de renversement de situation par rapport à la dynamique politique historique au Québec depuis 50 ans qui était on était fédéraliste ou on était souverainiste, on était un ou on était l'autre, puis ça déterminait à peu près tout. Mais tu vois, on se retrouve... Le Parti québécois avait fait disparaître l'Union nationale parce que les gens de l'Union nationale, les militants, s'étaient reconnus un peu dans le Parti québécois. Mais la même chose est en train de se passer. La CAQ a pris la place du Parti québécois, le Parti nationaliste qui...
Le Parti des Bleus.
Hein, le Parti des Bleus. C'est vraiment ça. Les Bleus viennent de revenir au pouvoir.
Oui, tout à fait.
Les gens vont, je le sens, vont davantage se reconnaître dans certaines des prises de position. Il y a quand même, je considère que son affaire sur le pétrole sale de l'Alberta, c'était une grosse gaffe, là, qui va avoir des répercussions à long terme. Ouais. Mais c'est pas mortel, et puis bon.
Ouais, puis par ailleurs, Luc, on s'entend, là, ils sont en lune de miel. On sait bien que à pareille date, l'an prochain, dans un an, on va avoir toutes sortes de reproches à leur faire,
bien
parce
sûr.
Que c'est un gouvernement qui est composé d'êtres humains. Puis, veut pas, y en a qui vont être bons, mais il y en a qui seront pas bons, qui vont se planter.
Ouais,
même parmi ceux qu'on vient de mettre dans la liste des prometteurs,
il y en a
qui vont, peut-être qu'ils vont sortir de leur première année au pouvoir avec des honneurs, mais il y en a qui vont sortir avec le prix Citron. Hein? C'est sûr qu'ils vont en avoir de ça.
Très souvent, ce que les gens ne réalisent pas, toi, tu le réalises parce que d'abord, tu as couvert la politique comme journaliste, puis en plus, tu en as fait. Mm. Moi, je l'ai couvert comme journaliste. Journalisme, et j'en ai fait, mais pas comme un élu. Mm. Mais le fait est que les gens ne réalisent pas que la gestion du quotidien, c'est le plus grand défi d'un politicien qui prend le pouvoir. Ah. C'est que tu ne contrôles pas les circonstances environnantes. C'est dans des circonstances changeantes, comment tu vas te conduire, c'est ça qui détermine.
Avec un temps de réaction, Luc, de plus en plus court.
De plus en plus
Parce que les réseaux sociaux font en sorte qu'ils te mettent une pression épouvantable pour que tu réagisses rapidement. Tu es bombardé constamment et d'informations et de pressions de toutes sortes. Et donc, le politicien ou la politicienne a de moins en moins de temps pour prendre la bonne décision. De là, l'importance d'un bon jugement.
Oui.
Hein, on s'entend, toi et moi, je pense, pour dire c'est bien plus facile de trouver un homme ou une femme politique qui est intelligent qu'un homme ou une femme politique qui a du jugement.
Ça, c'est assez particulier, en effet. Puis c'est pourquoi la durée en politique est une référence incontournable. Je veux dire, si quelqu'un arrive à durer 8 ans, puis 10 ans, puis 12 ans au pouvoir, c'est parce qu'il a bien géré le quotidien, en plus, je l'espère, d'avoir apporté des réformes appropriées pour la société qui est là pour gouverner, quoi.
Tout à fait, tout à fait.
Alors, il va falloir qu'il priorise. Ça, c'est la grande affaire en 2019. Tu peux pas tout prendre de front.
D'autant plus, si tu sens qu'un ralentissement s'en vient puis que tes moyens financiers vont rétrécir comme peau de chagrin parce que tu vas être obligé de te garder une partie de ton coussin pour équilibrer le budget, hein?
Alors, il faut que tu sois prudent.
Il faut que tu sois prudent. Et donc, ça t'oblige à prioriser parmi tes priorités déjà.
Tout à
là.
Fait.
Voilà.
Tout à fait.
OK. Alors, ça, c'était le bon coup de Luc pour l'année, si on peut dire. Hein? Le mauvais coup, c'est après la pause.
Voilà.
Drainville PM. La voie est libre.
Pour certains, il faudrait tirer un trait sur notre mouvement comme si nous avions atteint la fin de notre vie utile. Non. L'histoire se poursuit. Nous continuons avec l'esprit des pionniers de ce grand mouvement politique.
Oh là là, c'est Pascal Bérubé.
Oui, le chef intérimaire du Parti québécois, parce que ça, c'est le Parti québécois, c'est ton
mon mauvais coup, mon grand perdant de l'année.
Ton grand perdant.
Plus que les libéraux, parce que les libéraux, par leur nature même, vont se relever graduellement. Ça va
parce
prendre.
Qu'ils ont une base. Hein?
Parce qu'ils ont une base, parce qu'ils ont l'habitude de ça, parce que, bon, et là où ils se situent politiquement, ils sont toujours capables de se régénérer. Mais le Parti québécois, j'ai bien l'impression qu'on vient d'assister à leur décès. Pourquoi? Parce que la CAQ est en train d'occuper le terrain qui était le leur. Autant le Parti québécois a fait disparaître l'Union nationale, là, c'est l'Union nationale appelée CAQ maintenant qui fait disparaître le Parti québécois. Et la défaite qu'ils ont vécue, c'était vraiment humiliant pour ceux qui ont milité très longtemps dans ce parti-là.
C'était blessant.
Mais c'était inéluctable, je pense. Puis on le voyait s'en aller. Là,
ça faisait plusieurs élections où l'appui descendait. Une espèce de courbe descendante.
Absolument. Alors, ce grand parti de René Lévesque, puis de Jacques Parizeau, puis de Lucien Bouchard, puis de Pierre-Marc Johnson, puis de Bernard Landry, on peut en nommer d'autres, Jacques-Yvan Morin, enfin tous ces ministres, Pauline Marois, tout ce monde-là, ce grand parti-là est devenu une peau de chagrin. Il reste, pour ainsi dire, presque rien. Et moi, j'ai l'impression qu'il y aura des sondages éventuellement sur la place publique. Là. J'ai l'impression qu'ils sont plus bas que leur score du 1er octobre. 1er octobre, ils ont fait 17. Moi, j'ai l'impression qu'ils vont se retrouver autour de 10-12. Et Québec solidaire leur a fait mal, mais pas autant que la CAQ. C'est la CAQ qui va chercher son vote. C'est clair. Puis, comme toi, on en parlait tantôt, j'entends des gens qui ont voté péquiste le 1er octobre, qui sont bien contents que la CAQ soit là. Puis, si c'est à refaire, ils voteraient pour la CAQ, je pense.
Oui.
C'était des gens qui, jusqu'au bout, ont dit « Je vais demeurer loyal à ma formation politique, à ma famille. » Mais là, à un moment donné, ils se disent « Non, regarde, c'est fini. » Puis, les sondages marquent... c'est incontournable. Les sondages démontrent que de 18 à 40 ans, là, cette option-là, l'option qui était à la base du PQ, n'accroche plus. Je ne sais pas s'ils vont réussir à la réinventer.
Mais ça peut plus. En tout cas, ce que je disais ce matin dans ma chronique avec Paul Arcand, c'est que l'indépendance n'est plus une idée suffisamment forte pour permettre au PQ, pas juste de gagner, de survivre sur l'échiquier politique. Je ne dis pas que l'idée ne va pas rester...
Ça va rester
certainement un mouvement, mais est-ce que l'idée est assez forte pour permettre à un parti politique...
De former un gouvernement.
De faire élire un nombre suffisant de députés pour avoir une présence au Parlement, c'est de moins en moins clair. Hein?
Puis ils l'ont pas modernisé, l'option. Tu le sais qu'ils l'ont pas modernisé, l'option.
Ben, c'est-à-dire, Luc, à un moment donné, ils l'ont pas modernisé.
Ben, moi, en tout cas, elle correspond plus au canon moderne.
Mais c'est parce que les Québécois, à un moment donné, qu'est-ce que tu veux quand la population n'en veut plus? T'as beau essayer de la moderniser, de changer le discours. Il y a eu toutes sortes d'approches différentes qui ont été tentées. Puis à un moment donné, quand la
population...
qu'est-ce que tu veux? À un moment donné, c'est la population qui décide si ton idée a vie ou pas. Et si ton idée ne reçoit plus l'appui d'un nombre suffisant de tes concitoyens, ben qu'est-ce que tu veux que tu fasses comme parti? Tu comprends?
J'ai hésité avant de choisir le Parti québécois comme le grand perdant de l'année parce qu'il y en a un autre. Moi! Je suis un grand perdant, Bernard.
Tu es un grand perdant? Oui. Mais ça fait longtemps, ça, que tu es un grand perdant.
Non. Malheureusement, on n'avait pas fait de pari le soir de l'élection, mais moi, j'avais dit en 70 puis 75. Toi, Bernard, t'étais dans le 62, 63.
J'étais
trompé.
J'étais courte.
Mesdames et messieurs, Bernard a engagé avec moi une bouteille de vin que les employés de la SAQ ne seraient pas en grève à Noël. Et là, j'ai perdu ma gageure.
On a un extrait.
La preuve. Une
petite bouteille de vino.
On met une
à toutes les
de
fois que tu as gagé avec moi, là, tu as toujours perdu tes gageuses. C'est toujours toi qui m'étais obligé de me fournir des bonnes bouteilles, soit dit en passant. Parce qu'au moins, tu n'es pas cheap.
Je suis pas cheap.
Non, c'est vrai.
Alors, tu ne seras pas cheap parce que cette fois-ci, tu vas perdre, Bernard. OK? Ils vont être en grève à Noël.
OK.
Il va y avoir suffisamment de SAQ pour donner le service. Les cadres vont les faire marcher.
OK, garde bien.
Il va y avoir des fils interminables.
Garde bien.
Puis moi, je vais attendre pour mon Noël personnel et profond. Je vais attendre ma petite bouteille de vino de Bernard pour voir s'il est cheap. Bernard,
ça me fait plaisir.
Bernard, ça me fait beaucoup de peine, par contre, parce que la raison pour laquelle tu gagnes, c'est parce que les patrons de la SAQ se sont transformés en pissous. Ils ont écrasé, ils ont cédé. On ne sait pas ce qu'ils ont cédé, parce que tout ça, c'est secret. Ça a beau d'être une société de la couronne, une société d'État, devrais-je dire. Alors, voici, Bernard.
Un beau Barolo. Regardez, on est en Facebook Live. Regardez la belle bouteille. Barolo.
T'es pas cheap, d'habitude.
Non, moi, je suis pas cheap. Je ne penserais pas.
Parce que c'est tes souliers qui me mènent à penser, des fois, que tu dois être cheap.
Ils sont super beaux, mes souliers. Alors, un bon Barolo. Merci, mon Luc, de tenir parole. Et j'en profite pour te souhaiter un joyeux Noël.
Puis
je vais te souhaiter bonne année quand on va se revoir en 2019, mais je te souhaite un joyeux Noël avec tes petits-enfants.
Ben oui.
Puis ta famille.
Ben oui.
Puis ta douce. Puis toute la gang.
Puis on va à Rimouski.
Tu vas aller voir papa.
Oui, va aller voir papa. Oui. C'est peut-être une des dernières fois, mais enfin, c'est comme ça la vie. Alors, joyeux Noël à toi, à ta famille, à tout le monde.
Oui, aux auditeurs, évidemment.
Quand chaque fois que tu vas t'humecter les lèvres avec ce vin,
je vais avoir une petite pensée pour toi.
Tu auras une petite pensée pour moi.
Tiens, je te serre la pince, mon Luc.
Joyeux Noël, Bernard.
Merci, mon gars. Merci beaucoup. Bye. On s'arrête et au retour, c'est Christian Page avec les mythes et complots.